FM connecté à votre région.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans les rendez-vous de l'économie du territoire. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Massimiliano Prestifilippo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur d'Eurosit, qui est situé dans la zone industrielle Nevers-Saint-Éloi. C'est bien cela ?
C'est exactement ça.
Merci d'être notre invité de ce jour. Alors, comme sur chacune des émissions, j'aimerais que vous puissiez présenter à nos auditeurs l'entreprise Eurosit, que beaucoup connaissent de nom, mais peut-être pas si bien que ça.
Alors, Eurosit est une entreprise qui a une histoire aujourd'hui, puisqu'on a fêté nos 75 ans, enfin en fait, nos 75 ans cette année. On a fait des portes ouvertes il n'y a pas très longtemps pour montrer l'entreprise au grand public. Eurosit, au sein du groupe Socoa, qui est un petit groupe français, est leader sur le marché français en production de sièges et d'assises. Donc, on produit des sièges de bureaux sur lesquels on est assis, par exemple, là, dans le studio, mais également dans d'autres bureaux. On produit aussi des solutions d'assises pour des tiers-lieux, c'est-à-dire des zones d'accueil, des endroits dans un open space où on peut effectivement travailler autrement. Donc là, on parle plus de canapés, de sofas, de bridge, de lounge. Voilà, donc des produits un peu plus confortables et un peu moins formels. Donc Eurosit, c'est ça, c'est un premier fabricant français de sièges et d'assises de bureaux. Pour vous donner un ordre de grandeur, on produit à peu près 1000 sièges en moyenne par jour. Donc ça fait quand même une très grosse quantité. On est un peu plus de 150 aujourd'hui. Et on représente une quarantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.
D'accord, donc on a déjà cette première vue économique. Alors, au niveau des salariés, nous avons une équipe quand même assez conséquente pour notre territoire. Eh bien, quels sont les métiers que l'on retrouve chez vous ?
Alors en fait, j'ai l'habitude de dire qu'on nous sommes des tapissiers, des logisticiens. Alors des tapissiers, non pas qu'on fasse des tapis, mais dans les métiers classiques. Donc chez nous, on a un premier atelier de coupe-couture où on a beaucoup de couturiers et de couturières. Alors je vais pas vous mentir, ce sont exclusivement des couturières aujourd'hui. C'est pas faute de chercher des couturiers, mais...
Des fois, la parité, oui, ça va pas comme on veut. Hein.
Non. Et là, pour le coup, alors l'index égalité homme-femme de Rossi est de 98%, je tiens quand même à le dire.
Ben voilà.
C'est un index qui mesure l'équité de traitement entre les sexes. Et si vous pouvez aussi dégrader le traitement du sexe masculin, c'est valable dans les deux sens.
D'accord.
Voilà, donc on a un premier atelier de coupe et de couture où on a des personnes qui déroulent des rouleaux de tissu, qui les découpent sur des machines numériques. Et ensuite, ces coupons sont cousus par des couturières pour faire des coupons prêts à tapisser.
D'accord.
On a un deuxième atelier de garnissage où on va venir gérer ce qu'on appelle nous le placé d'assises, enfin tous les éléments, l'élément rigide sur lequel on est assis, la mousse, le tissu qu'on va mettre dessus, et donc on va venir tapisser, garnir l'ensemble. On va ainsi s'occuper des assises et puis des dossiers. Donc toute cette activité de coupe, couture, garnissage, c'est ce que j'appelle la tapisserie en fait chez nous, et c'est pour ça qu'on dit qu'on est des tapissiers. En dehors de cela, Eurosit, c'est pour la moitié de son bâtiment, c'est près de 20 000 m², ce sont des stocks, parce qu'il faut approvisionner dans un délai plus long que le délai de réponse au client. On n'a pas le temps d'attendre la commande client pour savoir ce qu'il faut approvisionner, donc on doit avoir des stocks sur place. Et ensuite, l'autre moitié du bâtiment, c'est donc la production, donc coupe, couture, garnissage, et après vous avez un grand atelier d'assemblage où on va venir faire le siège, l'assembler, et puis des expéditions. Alors évidemment, pour faire vivre une entreprise comme ça, on a une équipe de commerciaux, marketing, commerce, une équipe ADV, une équipe projet pour faire des devis, mais on a également un designer, un bureau d'études, industrialisation, méthode. On a évidemment un service maintenance, un service qualité, hygiène, sécurité, environnement, et tous les services que vous pouvez rencontrer dans une entreprise, la comptabilité, finance, RH, etc. etc.
Oui, il y a des incontournables, quels que soient les métiers.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et au niveau justement de ces métiers particuliers, parce que finalement, donc vous vous définissez comme des tapissiers et des logisticiens, mais on est aussi sur une dimension absolument industrielle.
Oui, ce ne sont pas des artisans, même s'il y a encore ça qui est un peu rémanent dans l'histoire d'Eurosit, parce que c'est une entreprise qui a 75 ans, donc elle a évolué dans son histoire. Au tout départ, elle faisait elle-même ses propres roulements, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle dépend de la métallurgie, en termes de conventions collectives. Mais il faut bien considérer que cette gestion de flux est assez complexe et qu'elle est gérée de manière industrielle et de manière optimisée. Mmh. On fait de l'amélioration continue, du lean management, lean manufacturing. On parle de valeur ajoutée, on parle de mouda, de gaspillage, on parle d'optimisation des mouvements. Les postes sont aménagés, on est très, très, on fait très attention effectivement aux conditions de travail des salariés et puis à leur ergonomie. Et c'est bien cette gestion de flux en fait qui est industrialisée, parce qu'en soi c'est une entreprise qui a une activité qui est quand même très tournée, une activité de main d'œuvre forte. Il y a pas beaucoup de robots en fait, hein, dans cette entreprise. Il y en a localement, ponctuellement, pour faire certaines tâches. Mais c'est pas, vous rentrez pas dans un atelier complètement déshumanisé avec des robots de partout, une personne à l'entrée et une personne à la sortie qui récupère le produit. D'accord. On est obligé, quand vous faites ça, quand vous faites de la couture ou quand vous garnissez un siège, vous êtes effectivement obligé d'avoir une partie main d'œuvre. Ce qui est industrialisé, optimisé, c'est la gestion des flux en fait. C'est pour ça que je vous disais que nous sommes des logisticiens, c'est qu'on gère de la complexité, parce que les 1000 sièges jour, ils sont constitués, chaque ordre de fabrication, enfin la quantité moyenne qu'on lance en assemblage, elle est entre 2 et 3 sièges. D'accord. Donc en fait, ce sont beaucoup de petites quantités et avec beaucoup de variété, et on fabrique chaque jour ce qui part le lendemain.
D'accord. Alors justement, vous parliez tout à l'heure des postes qui sont adaptés. Ce qui m'a frappé, moi, en allant visiter l'entreprise, c'est jusqu'où va l'adaptation justement des postes et le fait de tenir compte de l'humain. Parce que notamment, vous avez un certain nombre de salariés, quelques-uns, ceux qui sont justement sur la partie logistique, manutention, qui ont des aides, les exosquelettes. Alors ça, c'était la première fois pour moi de voir en application vraiment. Ça va jusqu'où, justement, cette attention que vous portez aux salariés ?
Alors, il y a un point qui est important. Donc, Eurocide fait partie d'un groupe, hein, le groupe Socoa. En gros, ce sont un certain nombre de sociétés. Et Eurocide est la principale filiale. Elle a donc sa maison mère qui se trouve à Hendaye, fait la même chose qu'Eurocide, mais avec des gammes différentes de sièges. Et là où Eurocide fait 40 millions, la société à Hendaye fait 55 millions. Donc elle représente à L2 les 80% du chiffre d'affaires du groupe. Cette société et cet esprit basque, puisque le groupe est basque, il est basé sur le respect des salariés. C'est-à-dire que l'entreprise basque appartient à ses salariés. Ils sont plus de 1200 actionnaires porteurs qui détiennent l'entreprise. Chez Eurocide à Nevers, on a le même état d'esprit en termes de considération du personnel. C'est-à-dire qu'en fait, Eurocide redistribue quasiment la moitié, entre 30 et 50% de son bénéfice à ses salariés sous forme d'intéressement et de participation. Eurocide propose également à ses salariés d'être actionnaires de l'entreprise. Donc il y a encore un autre biais de redistribution. Ce que je veux vous dire, c'est que le salarié, le collaborateur chez Eurocide, il est placé au centre des attentions. Et c'est pas que je suis pas en train de vous vendre quelque chose ou de faire du marketing là. Le fait que le salarié soit intégré dans la réflexion, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas avoir cet état d'esprit sans effectivement aménager les postes de travail en ayant une attention particulière effectivement à la santé des salariés. Ce que vous avez vu lors de votre visite, c'est effectivement des salariés qui sont obligés de porter des charges qui sont assez lourdes pour pouvoir palettiser les palettes de sièges. Ce que vous avez vu est un ergosquelette, effectivement, ou exosquelette. Donc c'est un élément qui transforme un petit peu le salarié. Ce n'est pas très agréable à porter, parce qu'en général, c'est plutôt risible. Et les collègues autour ont tendance à se moquer de la personne. Mais ça permet effectivement à la personne de garder le dos droit et d'apporter une première assistance pour lever des charges. L'intérêt de ce que vous avez vu, c'est effectivement de garder le dos bien droit. Mais on a travaillé également sur les postes de travail pour qu'effectivement il y ait le moins de mouvements possible, le moins de torsion du tronc possible, que les ports de charge soient mesurés, qu'on puisse travailler à plusieurs quand c'est nécessaire, etc. etc. Donc l'attention, elle est effectivement portée aux salariés. Elle est portée aux salariés parce que c'est notre ADN. Et ensuite, je pense qu'aujourd'hui, on parle de qualité de vie au travail. Si on veut pouvoir attirer des talents, attirer du personnel, vouloir donner envie de venir travailler chez nous, il faut que les conditions de travail soient tout à fait correctes.
Donc ça, c'est important. Est-ce que actuellement, justement, vous avez des postes à pourvoir, et est-ce que les recrutements sont aisés? On est dans une période où c'est difficile pour beaucoup de monde. Alors, je serais surprise que vous me disiez oui, mais...
Non, c'est compliqué.
C'est compliqué.
C'est compliqué. Alors, c'est compliqué parce qu'effectivement, bien quand vous êtes une entreprise, une industrie, c'est pas très attractif par rapport à un travail dans le tertiaire. Ce qui est quand même assez étonnant parce que tout à l'heure, je vous ai décrit très rapidement l'ensemble des métiers de l'entreprise de Rossite, et je peux vous dire qu'en gros, quasiment 40% des métiers ou 50, 45% sont des métiers tertiaires, hein, des métiers de design, de création, de management, d'achat, de vente, etc. etc. Donc bon, ça c'est une première approche. Les plus jeunes générations ont une idée de l'entreprise et de c'est l'usine, quoi.
Ainsi, c'est l'usine aujourd'hui qui oui, fait peur à ça, nos plus jeunes.
Je pense, oui. Je pense qu'ils savent pas ce que c'est que travailler en usine, ou en tout cas qu'ils se rendent pas compte. On sort d'une période post-Covid où le télétravail est mis en avant.
C'est ce que j'allais dire, la couture en télétravail.
Ouais, c'est ça. Donc à moins de mettre une machine à coudre dans le garage ou dans le sous-sol, encore faut-il en avoir un de la couturière.
Oui. Et de faire. En termes de conditions, il y a mieux quand même.
Oui, il y a mieux. Oui.
Voilà, donc, c'est ça.
Donc il y a un problème d'image.
Oui.
Ça c'est évident, donc on essaye aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je suis là, on essaye aujourd'hui de montrer, en ouvrant nos portes, en parlant de l'entreprise, que les conditions de travail sont tout à fait correctes. L'entreprise est saine, elle est éclairée. Quand on travaille dans cette entreprise, je peux vous dire, pour en connaître d'autres, enfin c'est pas l'objet de se comparer, mais c'est quand même bien, enfin on est plutôt bien. On travaille moins de 35 heures par semaine, on a un vendredi sur deux, l'autre vendredi on part à midi. Je vous ai parlé tout à l'heure des conditions de rétribution, intéressement, participation. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas, bien chez Eurosite simplement. Effectivement, c'est l'usine, il faut pouvoir travailler en entreprise. Et aujourd'hui, les emplois qui sont les plus difficiles à trouver, en tout cas les salariés qui sont les plus difficiles à trouver, sont dans ces métiers. Ces métiers manuels, donc la couture, c'était compliqué. Aujourd'hui, je suis en train d'embaucher un agent logistique, je ne trouve pas. Il y a une agence, il y a une annonce qui est actuellement en cours pour un CDI en logistique, donc un magasinier, pour dire les choses simplement. Dans peu de temps, mais là c'est dans un domaine différent, pour un départ en retraite, je vais recruter un commercial certainement sur la région parisienne, Paris et le pourtour. Je viens de recruter des couturières. Alors les couturières, en fait, on les a pas trouvées, on les a formées. Donc on a pris, ça s'appelle une POEC, enfin c'est une formation collective financée par Pôle emploi. On a trouvé, enfin on a identifié 8 personnes qui étaient en demande d'emploi, en réinsertion, qui voulaient faire autre chose de leur vie, qui avaient les prérequis pour apprendre à coudre, mais qui ne savaient pas coudre. Mm-hmm. Elles ont été formées 400 heures en locaux.
D'accord.
Donc ça a duré 3 mois avec l'industrie de formation textile et de l'habillement, l'IFTH. Et au bout de 3 mois, donc nous on en a gardé 4 sur les 8. Hein, c'était le challenge, c'était l'engagement de Rossite. Donc 4 personnes qui aujourd'hui ont un emploi. Donc on vient d'embaucher quelqu'un au magasin, mais on voulait en embaucher 2, il en reste 1. Je vous ai parlé du commercial. Mmh. Il se trouve que la pyramide des âges Eurosite est un peu roswellienne, c'est-à-dire elle est comme la tête de l'extraterrestre. Elle est, c'est pas une pyramide, c'est beaucoup de gens qui sont proches de leur retraite.
C'est le cas dans beaucoup d'entreprises, hein, et donc voilà. C'est vrai qu'il y a une nécessité aussi à prévoir le renouvellement, et c'est pas toujours aussi simple qu'on le voudrait.
Non, c'est pas aussi simple. C'est pour ça que avec l'équipe communication, on essaye de faire parler de nous pour attirer des talents ou des gens qui veulent venir travailler. Mmh. Sachant que les conditions sont remplies pour travailler tout à fait correctement, même si c'est, entre guillemets, l'usine.
Oui, c'est le mot usine qu'il va falloir qu'on change.
Oui, c'est ça.
Je vous propose, sur ces mots, que nous marquions notre première pause en musique. Qu'est-ce que vous aimeriez écouter ?
Eh bien, écoutez, on va faire quelque chose de très récent. Soft Cell, Tainted Love. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'aime beaucoup.
À tout de suite.
Merci. Le rendez-vous de l'économie du territoire. Retour dans un instant.
Le Tour de France arrive à Moulins ce mercredi 12 juillet. Notre journaliste, Baptiste Vlage, sera au cœur du Tour de France pour vous faire vivre cette incroyable journée. L'événement sportif de ce 12 juillet, le Tour de France débarque à Moulins. Vivez cette journée spéciale en direct avec votre radio.
Habitants des petits villages de la Nièvre et du Cher, ce message est pour vous. Ville Ajoie, une initiative de jeunes, organise une tournée et s'installe sur les places des villages pour les faire revivre le temps d'une soirée en y ramenant des services et de l'animation. Au programme, prévention santé, aide aux démarches administratives, mais aussi restauration, jeux et musique. Voici les prochaines dates.
Dans le Cher, à 5 après, mercredi 12 juillet. Dans la Nièvre, à Saint-Germain-Chassenay, jeudi 13 juillet. À Chevannes-Changy, samedi 15 juillet.
Ce spot est offert par Malakoff Humanis.
Venez vivre un été inoubliable avec les Pouguestivals 2023. Plongez dans des concerts exceptionnels. Chaque vendredi à partir de 20h, dans un lieu différent, venez vibrer au rythme de la musique et célébrer l'été en beauté. Les Pouguestivals 2023, des artistes talentueux vous transporteront vers de nouveaux horizons musicaux dans une ambiance magique à chaque concert. Ne manquez pas ces moments uniques pour vous divertir et vous évader. Rejoignez-nous pour une expérience musicale inoubliable. Concerts gratuits, restauration sur place. Les Pouguestivals 2023, jusqu'au 1er septembre, à Pouglezeau. Plus d'infos, Facebook, Pougestival. Un événement J'aime Poug et le casino de Pouglezeau.
Les 25e médiévales de Sagonne, les 22 et 23 juillet. Venez plonger dans l'époque des princesses et des chevaliers. Village viking, tournoi de joutes équestres, marché médiéval ou encore taverne et camp. Découvrez la magie d'une fête médiévale enchantée. Musiciens, saltimbanques, animations et jeux pour les enfants. L'incroyable fête des médiévales de Sagonne. Une expérience inoubliable où la magie du passé renaît sous vos yeux. 25e médiévale de Sagonne, les 22 et 23 juillet, à 10 minutes de son coin dans le Cher. Restauration sur place. Et bonne nouvelle, gagnez vos passes week-end en écoutant votre radio.
L'invité de la rédac, les jeudis à 19h, les samedis midi. L'invité de la rédac.
L'invité de cette semaine, Emmanuel Bernard, président de la FDSEA de la Nièvre, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles.
Tous les tubes.
Une radio.
Territoire. mardi 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire, samedi 13h.
Cette semaine, nous recevons Maximiliano Presti-Filippo de la société Eurosite.
Les rendez-vous de l'écho du territoire, mardi 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire, samedi 13h. La suite.
Nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire avec Massimiliano Presti-Filippo, je vais y arriver, qui est le directeur d'Eurosite dans la zone Saint-Éloi-Nevers. Nous avons évoqué donc les postes qui sont présents dans votre entreprise Eurosite, mais aussi des difficultés, comme beaucoup d'entreprises, à pourvoir ces postes qui sont liés au fait que le mot usine fait peut-être moins rêver aujourd'hui que nos parents ou nos grands-parents. Mais pour autant, les conditions de travail, nous l'avons vu, restent tout à fait plutôt hautes, on va dire.
Très acceptable.
Voilà, tout à fait. Il y a un autre engagement qui est important pour Eurosite, c'est l'engagement environnemental. Et j'ai vu que vous aviez fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, à la fois dans l'organisation de l'entreprise, mais aussi dans les approvisionnements, dans la recherche. Expliquez-nous un petit peu où vous en êtes.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre appétence environnementale, elle n'est pas simplement liée au marché. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, le marché demande de plus en plus, et c'est effectivement d'avoir une stratégie environnementale très claire et une empreinte environnementale maîtrisée. Donc, ça, c'est vrai, c'est une réalité, et tant mieux, et tant mieux. Par contre, le Eurosite, la direction, moi-même, nous mettons tout en œuvre, effectivement, pour améliorer notre empreinte environnementale. Aujourd'hui, lorsqu'on conçoit un siège, on mesure effectivement, on regarde son design, son look, comment il répond à la fonctionnalité, comment il va marcher, à combien on peut le vendre, quel est le potentiel, etc. Mais aujourd'hui, on regarde aussi, avec un logiciel d'ACV, d'analyse de cycle de vie, on regarde quelle est l'empreinte environnementale de ce produit. On ne se limite pas à calculer le bilan carbone. On va regarder également l'impact sur l'acidification de l'air ou l'eutrophisation des eaux ou l'impact, etc. etc. Enfin, il y a plusieurs paramètres qui peuvent être mesurés aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on conçoit un siège, on sait comment on approvisionne. Donc nous choisissons d'approvisionner exclusivement ou presque, en tout cas de manière principale en Europe, le plus possible, sachant que tout est produit sur le site à Nevers. Hein. On ne produit pas à l'étranger, on n'est pas des importateurs. Donc, on approvisionne des produits qui sont également éco-conçus ou qui sont éco-sourcés. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, faire des sièges avec du tissu dont les fils proviennent du recyclage des plastiques qu'on trouve le sixième continent sur nos océans, malheureusement. Donc, on a des fournisseurs qui sont capables de faire ça. Hein. Ce n'est pas nous qui faisons le tissu, nous on l'achète. Donc on va chercher du plastique recyclé, du tissu recyclé, etc. etc. On va éco-concevoir nos sièges pour qu'en fin de vie, ils puissent être démontés, démantelés, séparés, et pour ensuite être de nouveau les éléments séparés, être recyclés pour refaire de la matière, voire même, et c'est un projet qu'on est en train de mûrir, voire même faire des sièges de seconde main, des sièges de réemploi, hein, puisque c'est ce qu'attend également le marché. Donc on a la volonté d'éco-concevoir. On dit volontiers que nos sièges sont socio-éco-conçus pour rabouter avec la première partie de notre échange, la manière dont on fait attention à mettre l'humain au centre de cela et la manière dont on écoute nos clients et notre client et sa sociologie. Mais effectivement, que ce soit par l'approvisionnement, la manière de réaliser nos produits en diminuant notre consommation énergétique et la manière dont on choisit nos produits et dont on vend des produits qui ont un impact environnemental plus faible, on est très orienté sur l'aspect environnemental. C'est quelque chose, je pense de toute façon que c'est quelque chose de majeur. Et aujourd'hui, par exemple, en termes de consommation énergétique, la principale consommation énergétique de l'entreprise, c'est son chauffage.
Oui, alors on est sur une période où en plus c'est compliqué pour tout le monde.
Pas aujourd'hui.
Non, alors aujourd'hui le chauffage, on va s'en passer. Ceci dit, s'il y a la clim, ça doit consommer aussi.
Oui, donc on fait attention, on a un standard, on règle nos bureaux quand il fait froid, quand il fait chaud. On fait attention à ne pas descendre trop bas ou pas monter trop haut. On a fait l'an dernier, alors on fait cela, on fait des économies d'énergie également parce qu'on travaille depuis plusieurs années sur des tranches d'isolation du bâtiment. Mm-hmm. En 10 ans, on a divisé par 2 notre consommation énergétique.
Ce qui est une belle performance.
Rien qu'entre l'an dernier et cette année, donc le dernier hiver, on a baissé, et là je compte en degrés jour universel, c'est-à-dire que je considère qu'à l'extérieur il fait toujours le même froid, hein, j'atténue les variations, on a gagné 13% par rapport à l'année précédente. Donc l'isolation du bâtiment, les comportements de chaque salarié, alors contraint ou pas, hein, parce qu'on n'a pas eu besoin, j'ai pas eu besoin d'être très insistant pour être sûr que. On a cherché à avoir 19 degrés hein, dans les bureaux cet hiver. Mmh. La consigne, c'était 19.
Voilà.
Donc c'était 16 dans l'atelier, et c'était 19 dans l'atelier sur les postes acides, couture, et 19 dans les bureaux. Le personnel a joué le jeu, et on a réduit effectivement notre consommation énergétique. Alors on isole le bâtiment. Donc on essaye de consommer moins, c'est quand même la démarche hein, en termes oui. D'abord on essaie de consommer moins. Après, quand on ne sait plus consommer moins, il faut consommer autrement, il faut consommer plus vert, entre guillemets. Mais effectivement, on peut dire qu'en termes d'énergie, de consommation énergétique, c'était le chauffage ou la climatisation l'été qui sont effectivement nos consommations les plus importantes.
Quels sont vos projets dans ce domaine-là ?
Comment améliorer tout ça ? Donc on a des projets, alors des projets qui sont soit tout seuls dans notre coin, mais ce n'est pas les meilleurs projets en général.
C'est pas toujours le plus simple, c'est parce qu'ils valent plus vite non plus.
Non plus. Et on a des projets collectifs. Alors aujourd'hui, j'ai sollicité l'agglomération de Nevers pour effectivement rallonger le système de chaleur biomasse et qu'il aille jusqu'à la zone industrielle de Nevers-Saint-Éloi. Alors j'ai sollicité avec mes camarades directeurs d'entreprise autour de moi, parce que nous sommes quand même pas mal d'entreprises hein, dans la zone industrielle. Oui, ouais, tout à fait. Et tant mieux, hein, parce que c'est porteur d'emploi. En plus, c'est une zone qui est à cheval entre Nevers et Saint-Éloi. Elle s'appelle Nevers-Saint-Éloi, donc je dirais qu'elle participe à la fois à l'agglo et également à la commune de Saint-Éloi. Et aujourd'hui, donc, j'ai sollicité les pouvoirs publics pour que ce réseau de chaleur effectivement aboutisse jusqu'à nous et vienne jusqu'à nous. Donc, ça prend un peu de temps.
Il est un peu loin encore. Hein.
Il est encore un peu loin. Alors, je sais qu'il y a des travaux, ça gêne certaines personnes. Je sais qu'il y a un projet pour monter une chaudière gaz pour compléter. J'espère qu'elle ne verra jamais le jour et puis qu'on continuera d'avoir l'énergie verte. Mais en tout cas, notre ambition, c'est notre volonté, c'est d'attirer cette chaleur jusqu'à la zone industrielle, parce qu'avec un échangeur thermique, elle nous permettra de chauffer notre bâtiment. Mm-hmm. C'est pas forcément la plus économique. Hein. J'ai des solutions potentiellement plus économiques que cela par rapport au prix d'aujourd'hui. D'accord. Mais en tout cas, c'est celle qui aura le meilleur impact environnemental. Et c'est aussi celle qui aura le meilleur impact social localement, parce qu'elle est porteuse d'emploi. Pour prendre les déchets chez tous les industriels, les porter jusqu'à l'unité de valorisation énergétique de Fourchambault, et effectivement pour pouvoir diffuser cette chaleur et l'emmener jusqu'aux entreprises. Donc je pense que ça, c'est un projet, alors c'est pas un projet aussi de seul, c'est un projet global dont j'espère qu'il portera ses fruits. Sinon, ma foi, Eurosite se débrouillera tout seul. Et puis, un puits canadien, de la géothermie, des panneaux solaires. Enfin, il y a des solutions. Donc, ça, c'est
le projet. Il y a plan A, plan B, plan C, si jamais.
C'est ça.
Donc, idéalement, la solution, vous l'avez dit vous-même, pas forcément la moins coûteuse, mais la meilleure d'un point de vue environnemental par le réseau de chaleur urbaine. Mm-hmm. Et sinon d'autres solutions
spécifiques. Donc là, on fait une analyse complète de notre consommation énergétique. Et donc on va demander de l'aide pour vérifier quelle est la meilleure solution pour l'entreprise.
Mmh. D'accord. Et vous parliez tout à l'heure des autres entreprises de la zone industrielle. Est-ce qu'il y a une solution intermédiaire éventuellement qui se ferait juste avec les entreprises de la zone ou pas ?
C'est une possibilité, on en parle. On en parle, oui. Oui, tout à fait. C'est un peu tôt. Mais il y a une vraie volonté commune. Aujourd'hui, les industriels, les entrepreneurs sont vus comme des gens, comme des capitalistes qui cherchent le bénéfice à tout craint. Mais ça a changé, ou en tout cas, on a une certaine philosophie, en fait. On a des valeurs qui sont importantes. Il est hors de question. Nous, on peut faire quelque chose. Donc, il est hors de question d'agir sans rien faire. Et on essaye de mobiliser le plus grand nombre. Mais si jamais, effectivement, ce réseau de chaleur ne parvenait pas jusqu'à nous, on trouverait d'autres solutions et on réfléchit à des solutions collectives, effectivement, pour améliorer notre impact environnemental, c'est évident.
D'accord. Nous allons marquer une seconde pause en musique. Alors cette fois-ci, je vous laisse nous dire ce que vous aimeriez écouter.
Alors on va rester dans quelque chose de très récent. Moi j'aime beaucoup Sting et Russian de Sting, c'est une chanson que j'apprécie.
Eh bien c'est parti, à tout à l'heure.
Les rendez-vous de l'économie du territoire, retour dans un instant.
Tour de France arrive à Moulins ce mercredi 12 juillet. Notre journaliste, Baptiste Vlage, sera au cœur du Tour de France pour vous faire vivre cette incroyable journée. L'événement sportif de ce 12 juillet, le Tour de France débarque Moulins. Vivez cette journée spéciale en direct avec votre radio.
Venez vivre un été inoubliable avec les Pogues Estivales 2023. Plongez dans des concerts exceptionnels. Chaque vendredi à partir de 20h, dans un lieu différent, venez vibrer au rythme de la musique et célébrer l'été en beauté. Les Pogues Estivales 2023, des artistes talentueux vous transporteront vers de nouveaux horizons musicaux dans une ambiance magique à chaque concert. Ne manquez pas ces moments uniques pour vous divertir et vous évader. Rejoignez-nous pour une expérience musicale inoubliable. Concert gratuit, restauration sur place. Les Pogues Estivales 2023 jusqu'au 1er septembre à Pougues-les-Eaux. Plus d'infos, Facebook, Pougues Estivales. Un événement J'aime Pougues et le casino de Pougues-les-Eaux.
Écoutez, gagnez votre passe et découvrez l'excitation du karting. Venez vibrer sur la piste de karting du circuit de Nevers-Manicourt. Des tours de piste palpitants avec des sensations uniques pour une expérience inoubliable. Ouvert 7 jours sur 7, le karting de Nevers-Manicourt vous accueille en famille ou entre amis pour partager un moment de loisir pour les plus grands comme pour les plus petits. Venez profiter de nombreuses activités autour du karting et du mini-golf à partir de 14 euros. Infos et billetterie sur kartingmanicourt.com.
Habitants des petits villages de la Nièvre et du Cher, ce message est pour vous. Ville à Joie, une initiative de jeunes, organise une tournée et s'installe sur les places des villages pour les faire revivre le temps d'une soirée en y ramenant des services et de l'animation. Au programme, prévention santé, aide aux démarches administratives, mais aussi restauration, jeux et musique. Voici les prochaines dates.
Dans le Cher, à Saint-Caprais, mercredi 12 juillet. Dans la Nièvre, à Saint-Germain-Chasseney, jeudi 13 juillet. À Chevannes-Changy, samedi 15 juillet.
Ce spot est offert par Malakoff Humanis.
Tous les tubes.
Une radio.
les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h.
Cette semaine, nous recevons Maximiliano Presti-Filippo de la société Eurosite.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h. La suite.
Nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission Les rendez-vous de l'économie du territoire. Notre invité de ce jour est toujours Massimiliano Presti-Filippo pour la société Eurosite. Nous avons parlé de beaucoup de choses jusqu'à présent et notamment des engagements importants d'Eurosite en matière d'environnement et en matière sociale aussi. J'aimerais que nous abordions dans cette dernière partie plus votre parcours personnel et vos valeurs personnelles parce qu'on ne se retrouve pas sur ce type de poste à porter ces valeurs pour l'entreprise si au fond nous on n'y croit pas. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors donc on va essayer de la faire plus courte celle-là que les deux premières parties, mais volontiers je vais vous répondre. Oui, je vais expliquer la cohérence de cela. Alors mon parcours personnel, donc je suis plutôt dans le moule, classe préparatoire, école d'ingénieur, donc plutôt rien d'extraordinaire en tout cas. L'ordinaire de quand même pas mal de personnes, même si ce sont des études supérieures, mais pas de parcours un peu particulier où j'ai pu rebondir, vivre des choses, etc. Donc plutôt traditionnel. Donc j'ai commencé par prendre des responsabilités de management dès le départ. D'abord des ateliers de production, ensuite des sociétés complètes au niveau industriel, et puis j'ai agrégé d'autres responsabilités techniques, puis des responsabilités financières en termes de gestion, puis des responsabilités commerciales pour prendre en fait la direction. Aujourd'hui, j'ai dépassé 51 ans, oui, c'est ça. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Et donc, aujourd'hui, je gère, et depuis pas mal de temps, depuis plus de 10 ans, des centres de profit, des entités industrielles, j'allais dire. Ma spécialité, en fait, c'est celle-là. Et je me suis rendu compte depuis les années 2010, en fait, en 2009, on avait passé une première crise qui était un petit peu compliquée, où il a fallu retrouver des marges. En fait, les entreprises, c'était le moment de revoir comment elles étaient organisées. On ne pouvait plus passer avec autant de facilité qu'avant. Je me suis plongé à ce moment-là dans l'amélioration continue, le Lean Management. Il y a par cette approche, en fait, qui est assez empathique. Il y a une approche qui consiste à mettre l'individu au centre de tout et de réfléchir avec lui et de respecter les autres. Et en fait, c'est une démarche qui vient d'Asie, du Japon, de Toyota, et qui effectivement plébiscite le fait de travailler en groupe avec ceux qui sont sur le terrain, les écouter, les entendre, les valoriser. Et à contrario, je dirais, de l'ingénieur européen qui va vous dire qu'il faut absolument acheter une machine hyper performante avec plein de robots, de capteurs, etc. Donc ce passage-là vers l'amélioration continue m'a un peu ouvert les yeux, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai appris dans le cadre de mes études d'ingénieur. Il m'a ouvert les yeux sur le fait qu'effectivement, partager avec les autres, c'était important. L'empathie, c'était important. Écouter l'autre également. On retrouve la même fibre que lorsqu'on est, prof, je ne suis pas prof, mais en tout cas formateur. Il y a cette idée de partager avec l'autre, de transmettre des connaissances quand on les a, et d'avancer. C'était, je dirais, un premier passage, un premier changement dans mon parcours. Et puis, il faudrait être aveugle pour ne pas voir que la planète a besoin de nous. Il y a cette prise de conscience progressive qu'on peut faire quelque chose et qu'il ne faut pas fermer les yeux et qu'on est responsable. Donc, ça s'est ajouté, je dirais que c'est une couche supplémentaire qui est venue après. J'ai commencé par respecter les individus avant de respecter l'univers ou la planète dans laquelle on est.
D'accord.
C'était un peu ça. Donc,
Et en même temps, on a beaucoup reproché aux industriels de ne pas entendre l'urgence climatique. On la reproche aujourd'hui, on fait ce reproche aujourd'hui au gouvernement. Disons, les choses ne vont pas suffisamment rapidement. Et ce que vous nous dites, c'est que finalement, alors c'est votre cas, mais je crois savoir quand même que c'est aussi le cas de nombre de structures qui ont pris les choses en main déjà il y a un certain nombre d'années. Alors tout n'est pas parfait, mais respecter effectivement la planète et respecter l'individu. Ça fait partie des éléments qui sont prégnants quand on vous rencontre, quand on rencontre l'entreprise. Et c'est quelque chose qui finalement est naturel pour vous.
Oui, parce que je ne dis pas que c'est venu tout de suite en fait. Hein. On parlait moins de cela aussi il y a quelques dizaines d'années, mais je pense que les entrepreneurs sont capables d'innovation et qu'ils ont entre les mains des leviers. Alors moi je gère une PME, je suis dirigeant d'Eurosite, ce n'est qu'une PME de 150 personnes, il faut rester modeste, hein, même si sur le bassin d'emploi local... Elle est représentative, mais et on fabrique des sièges, donc et on essaye de les faire bien, de manière respectueuse des salariés, de l'environnement, de nos clients. Je pense que les entrepreneurs ont des leviers. Je pense qu'ils ont des leviers, même que les politiques n'ont pas, parce qu'ils n'arrivent pas pour différentes raisons à mettre en place certaines politiques. Je pense que nous, les industriels, les entrepreneurs, on peut faire quelque chose. Et ce n'est pas je pense que c'est une approche qui est partagée effectivement par beaucoup d'entre nous et qui vient avec le temps. Enfin, en tout cas pour moi, ce que je vous expliquais, elle est venue avec le temps parce que j'ai pas de formation précise dans ce domaine-là. Hein.
Bien sûr.
Donc c'est l'idée que dès qu'on peut faire quelque chose, on en profite en fait pour le faire. C'est comme une opportunité et on est des créateurs et des opportunistes. On se lève le matin et on se dit qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour mon entreprise, c'est quoi l'idée, c'est quoi l'innovation, c'est quoi le plus, c'est quoi le plan, c'est quoi le changement, c'est quoi l'amélioration, c'est quoi le progrès, c'est quoi le sens en fait de tout ça. C'est une entreprise, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Et quand on est dans cette volonté de mouvement et qu'on peut, eh bien, modestement, hein, faire des choses, eh bien, on agit. Et je pense que ça doit venir un petit peu avec l'âge.
Et une certaine maturité.
Pour une certaine maturité, oui. Oui, parce qu'en fait, au début, vous apprenez à faire votre métier.
Oui.
Et à un moment donné, vous savez le faire. Et quand vous savez le faire, en tout cas, en toute modestie, quand vous avez compris comment vous pouvez le faire, vous pouvez prendre un peu de recul. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre aussi un peu de hauteur et faire les choses avec hauteur. Et rencontrer les autres, hein, les autres industriels dans des instances, des clubs, etc., ça permet aussi d'échanger autour de ça. Mmh. Et moi, ce qui me rassure, c'est qu'on est quand même assez nombreux à avoir ces velléités.
Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, nous sommes des dirigeants de PME, de petites entreprises. Ça ne va pas révolutionner le sort de la planète. Ça va apporter sa contribution. Quoi.
Alors, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait une décision qui révolutionne tout, ou est-ce que c'est plutôt les actions individuelles ou collectives, mais à plus petite échelle, qui vont permettre justement de changer la donne?
Moi, je pense que l'addition de bonne volonté, c'est forcément quelque chose qui sera rentable.
Oui.
Je pense aussi qu'il y a une dimension mondiale, politique, qui de toute façon devra avoir lieu à un moment donné. Donc il y aura peut-être un déclic un jour.
Mais oui, comme ce déclic,
on ne peut pas l'attendre. Donc il faut qu'on fasse ce qu'on peut maintenant, ou s'investir dans la politique, hein, pour ceux qui aiment.
Aussi.
Mais je pense que, voilà, donc vous m'avez posé des questions sur mon parcours, je suis vite arrivé à ça. C'est vrai que pour diriger aujourd'hui une entreprise, il y a des formations, effectivement. Moi, je pense qu'il est important d'avoir une formation de base, une formation académique, une formation scientifique, culturelle, sur les langues, sur quelque chose qui vous construit. Et après, on pousse les portes d'une entreprise, d'une société, d'une organisation, et après, on peut progresser. Alors, c'est vrai qu'en France, il faut avoir le métier, enfin, il faut avoir la formation dans le métier pour pouvoir faire le métier en question. Enfin, c'est un peu cloisonné. Mais rapidement, dans une entreprise, de moins en moins.
Ouais. Parce qu'on voit bien que vous-même, vous allez former les personnes, et de nombreuses entreprises aujourd'hui sont en train de revenir sur cela. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas une formation, un socle quand même, pour aborder un certain nombre de postes. Mais on voit bien que, y compris dans ce domaine, on commence un petit peu, mais ce n'est pas encore parfait, à dire, bon, il y a un socle dont on a besoin. Et ensuite, on peut accompagner la personne, la former à nos méthodes et à nos valeurs aussi.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Un socle. Moi, dans mon cas, le socle, il était technique.
Oui.
Mais il pourrait être économique, il pourrait être financier, il pourrait être commercial. Mmh. Et lorsqu'on veut diriger un ensemble, en fait, on acquiert les compétences qu'on n'a pas. Et elles sont tout à fait accessibles. Alors après, il y a toute une notion de management de cohésion d'équipe, etc., qui s'apprend, ou en tout cas qui se travaille avec le temps, par rapport avec bon sens. Oui.
Oui, avec bon sens. C'est difficile aujourd'hui, les évolutions de notre monde, c'est difficile de pouvoir gérer les équipes, de s'y retrouver.
Difficile, c'est pas le terme. Ça évolue.
Oui.
Moi, je trouve que enfin, toutes ces bienséances qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, même sur LinkedIn, où effectivement, on vous dit, il faut être comme ça, il faut être à l'écoute, il faut être bienveillant, le bon manager, voilà comment il doit faire, etc. Moi, je crois qu'il faut réussir à comprendre l'autre quand on est dans une situation d'échange en tant de manager à collaborateur. Et qu'il faut être le plus naturel possible pour pouvoir effectivement gérer cette situation. Je pense que le management, il faut en avoir envie, gérer, diriger, il faut en avoir envie. On n'a pas forcément envie de le faire, mais on peut le faire pour plein de raisons différentes. Hein. Ça apporte beaucoup de satisfaction, de valorisation personnelle, outre le fait que c'est mieux rémunéré d'ailleurs et que d'autres jobs. Hein, donc ça peut être aussi une motivation. Mais pour gérer les gens, je pense que c'est ça, la compréhension, l'écoute, l'échange. Et puis après, oui, il y a un peu de boîte à outils quand même, il y a un peu de formation, un peu d'envie, et puis être soi-même par rapport à ça. Compliqué, non, disons que ça évolue. Et effectivement, les générations n'ont pas toutes le même comportement, pas toutes la même envie. On parlait des produits, en début d'entretien, on parlait des produits que vend Eurocite. Mmh. Bon. Là, on se parle, on est assis sur des sièges Eurocite et on parle ensemble sur des sièges assez traditionnels. Voilà. On est dans une radio. On est
assez traditionnel,
assez traditionnel aussi. On est assis, on est droit. Oui. Tiens-toi droit, hein, le dos bien droit. Voilà, c'est ça. Et donc, on travaille. Mais aujourd'hui, on peut aussi travailler dans un environnement différent, assis sur des bridges, un peu plus avec une posture un peu différente. On peut se relaxer de temps en temps, on peut travailler autrement. Mmh. Et il y a des générations qui aiment travailler comme ça. Et il y a des gens qui considèrent que c'est pas du travail, mais je crois qu'il faut entendre les attentes de tous, sans oublier le sens de l'entreprise, oui. son objectif de rentabilité impératif, hein, son objectif de se développer, donc il y a besoin de clients et de processer de manière rentable. Donc faut pas oublier ça. Hein,
mais c'est ça, on peut travailler différemment, il faut quand même arriver à maintenir l'objectif de l'entreprise, de la pérennité de l'entreprise. Et effectivement, par rapport à certains sièges qui permettent de travailler un peu comme à la maison, sur le canapé, comme l'ont fait beaucoup de nos auditeurs pendant le confinement, je ne suis pas sûre, en revanche, enfin moi je m'interroge sur le point de vue de la médecine du travail, sur des positions qui vont peut-être être différentes de ce sur quoi on a travaillé pendant des années pour améliorer justement la santé des salariés au travail. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, d'abord, avant de répondre à votre question, oui, on a le droit d'avoir une position un peu plus relaxe, mais il faut performer quand même. Hein. Il faut quand même,
oui, on est d'accord.
Il faut remplir la mission, il faut atteindre les objectifs. C'est une entreprise, hein, c'est indispensable. Voilà. Effectivement, ça contredit un peu certaines de nos valeurs. Et puis, le fait de se tenir bien droit tout le temps, oui, peut-être. Après,
peut-être que je me trompe. Hein, je
n'ai
pas de compétences en médecine, mais quand je vois certains sièges où on est vraiment un peu comme, pardon de le dire comme ça, mais un peu comme avachi sur son canapé, sur la durée, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas quand même quelques soucis de dos à venir.
Vous savez qu'il y a des sièges de gamers, par exemple, qu'on peut commercialiser. Hein,
oui.
Il y a des sièges qui vous permettent de travailler, enfin de jouer, pardon, j'allais dire travailler, sièges de gamers, vous permettent de, ouais, c'est pas des workers, c'est des gamers, qui vous permettent de travailler effectivement quasiment couché,
oui.
Voire complètement couché, hein. Donc ça, c'est des sièges qui existent. Donc il y a des positions, il faut que la colonne vertébrale soit bien maintenue, il faut faire attention à la manière dont vous vous tenez, effectivement. Bon, il faut aussi varier les postures, pas tout le temps être assis ou assise de la même façon. Il faut se lever régulièrement, il faut marcher, il faut ceci. Enfin, ça fait beaucoup d'injonctions. Hein. Mais c'est vrai qu'un siège confortable, multifonctionnel, où à un moment donné, quand vous prenez le téléphone, eh bien, vous vous reculez en arrière et vous avez une tétière qui vous soutient, qui vous soutient les cervicales, et vous pouvez effectivement continuer à avoir le corps qui est bien supporté par votre siège. Nos sièges sont vus par la médecine du travail. On fait même des sièges sur mesure pour certains salariés qui ont des difficultés, des sièges uniques. Donc on sait que les sièges répondent. Et à Vachy, ça ne veut pas forcément dire que le corps n'est pas maintenu. Ça veut juste dire qu'on est peut-être un petit peu moins droit et raide sur son fauteuil. Mais oui, il y a des postures qui sont tout à fait acceptables et vous pouvez le faire sans crainte. Il n'y a pas de souci.
Bon, bah écoutez, on va terminer notre émission de ce jour sur ces mots. Donc on peut être avachi, mais pas si mal que ça pour le dos. Le tout, c'est que par contre, il y a un objectif pour l'entreprise, hein, on se souvient bien.
Oui, tout à fait.
C'est ça. Merci Massimiliano d'avoir été notre invité. Merci à nos auditeurs. Je vous dis à très bientôt.
Au revoir.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h.